Cours de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe, le 26 octobre l'an 2000 à Saint-Jean-d'Arc.
C'est très bien, il y a beaucoup de petites questions, étant donné que ce qu'on a dit hier provoque ces questions et nous conduise. C'est ça qu'il faut bien comprendre, nous conduisent à cette distinction dans l'être. Et après, réflexion sur cette distinction à l'être, parce qu'elle n'est saisie qu'analogiquement. Vous voyez, c'est l'être en acte que j'expérimente dans l'acte, ceci est. Je vous ai dit, ceci est toujours présent dans toute ma philosophie, et spécialement, évidemment, dans cette induction. Vous voyez, ceci est présent dans l'induction, dans la distinction que je fais. C'est la première chose que je saisis. C'est la distinction entre le parfait et l'imparfait, ou l'imparfait et le parfait. Je saisis ça d'abord, dans le même être. Et c'est pour ça que la substance n'explique pas ça, la substance détermine. La substance est déterminée, mais elle ne finalise pas. Elle détermine. Et il faut arriver à préciser comment cette distinction finalise. Et c'est ça, point de vue délicat, c'est pas tout de suite. Le principe de la finalité. Vous ne dites pas le principe de l'acte. Pourquoi ? Vous dites le principe de la finalité. Et on parle de finalité. Et l'acte, il y a deux choses distinctes. C'est ça que vous avez très bien senti, du moins ceux qui ont posé ces questions, que ce qu'on a dit est très bien, mais maintenant la réflexion. Alors, je réponds d'abord aux questions, puis nous continuerons. Pourquoi cet ordre vers un acte, qu'on constate dans nos expériences, ne peut pas être expliqué par la découverte de l'ousia, principe selon la détermination de l'être, puisqu'il me semble qu'on peut considérer cet état de perfection, voyez, donc vous dites déjà état de perfection, attention, cet état de perfection, comme la réalité parfaitement déterminée. Non, la perfection dit plus que la détermination. Je peux être déterminé, pas être parfait. Parce que la détermination va impliquer un exercice, va impliquer une recherche. Quand je suis déterminé en moi, je suis ma propre fin alors. Comment expliquer que je ne trouve pas mon bonheur en moi ? Je suis déterminé. Je fais appel à l'expérience, l'amitié. Nous l'avons vu précédemment, c'est une expérience. Et l'ami n'ajoute rien à ma détermination. Pourquoi je trouve la finalité dans l'autre et pas en moi ? Ça, c'est une réalité que j'expérimente tous les jours. Il y a quelque chose de particulier que je ne vois pas très bien au début. Hein. La preuve, c'est que il n'est pas bête celui qui a dit ça, n'est-ce pas, sûrement. C'est très intéressant, du reste, comme remarque, vous voyez, la sacrée droite. Ça, c'est la réflexion de la sacrée droite. La détermination suffit. Non, la détermination ne suffit pas. Il faut qu'on se dépasse, qu'on aille plus loin. Hein? Il y a le désir. Et quand une Catherine de Sienne dit ce qu'il y a de plus grand dans l'homme, c'est le désir. Pourquoi? Elle aussi a saisi quelque chose. Ce qu'il y a de plus grand dans l'homme. Pourquoi Jésus, à la fin de sa vie, il dit « j'ai soif ». C'est d'ordre surnaturel, mais en même temps, Jésus est un homme parfait. Je constate. Je peux très bien m'en servir. Il y a la soif. Parfaitement déterminé. Parfaitement déterminé. Autrement, ce qui est serait indéterminé. Pardon. Autrement, ce qui est serait déterminé par autre principe que l'ousia. C'est justement ce qui est permet d'aller plus loin, le désir, l'attraction. Je suis attiré vers le bien. Le bien, c'est ce que tous désirent. Donc le bien, c'est pas l'être. Le bien ajoute quelque chose à l'être. Il ajoute cette possibilité d'attirer. Il faut expliquer ça. C'est très juste comme manière d'exprimer la chose, et ça fait en même temps comprendre que beaucoup de personnes trouvent que la détermination, c'est la perfection. Bien, la détermination n'est pas la perfection. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a être tourné vers quelque chose qui nous perfectionne, qui nous finalise. On n'est pas finalisé par la détermination. Je dis l'expérience du désir. C'est une réalité. L'expérience de l'amour, c'est une réalité. Aimer quelqu'un, c'est aller au-delà de soi. C'est pas rester en soi. C'est tendre vers l'autre. Quand quelqu'un dit « je n'ai pas besoin de l'autre, je suis moi parfaitement déterminé, laissez-moi tranquille, je me suffis. » Vous dites, dès qu'il aura l'impression qu'en lui, il y a en même temps que la détermination une fragilité, c'est curieux que la détermination ne détermine pas tout. Il y a le désir, autre chose. Mais vous pouvez ça, et là l'expérience nous le montre. L'amitié, un autre moi-même, mais un autre moi-même, un autre déterminé, mais il est autre. Comment expliquer autre? Alors c'est pour ça que je prenais expérience, nous avons vu, nous voyons ces états différents, l'imperfection, l'expérience de l'imperfection. On peut être très déterminé et sentir le besoin d'aller plus loin. C'est beaucoup plus difficile, vous voyez. Je suis tout à fait d'accord que la détermination, ça se voit tout de suite. C'est l'intelligence, la quiddité des choses, la détermination. Mais le désir, je ne comprends pas comment l'être en acte peut être fin de ce qui est tous, de ce qui est en tant qu'être. Ah, ça, c'est très juste. La différence entre l'acte et la fin. Ça, c'est intéressant et c'est très subtil. Hein. L'acte finalise. Entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la bonté. Dire que le bien finalise. Ça, vous arrivez à comprendre, je crois. Le bien, c'est ce que tous désirent. Bon, déjà, il finalise mon désir. Et c'est ma première expérience que j'ai d'un désir. Pourquoi avoir un désir ? Vous savez, un gosse, vous lui donnez un tas de jouets, un tas de choses. Hein. Le gosse moderne, il donne un tas de choses, un tas de jouets, des jouets très savants, merveilleux. Et puis, il y a encore un désir. Et bien, mais qu'est-ce que tu as tout ce que je peux te donner, tous les jouets possibles, non ? Un désir. C'est curieux, hein, le désir. Et c'est très important. Supprimer le désir chez un gosse, l'arrêter en lui donnant des tas de jouets pour qu'il ne désire rien, pour qu'il ait tout, c'est très très mauvais. Parce qu'il ne grandira pas spirituellement. Il y a quelque chose en nous qui aspire à quelque chose de plus. Quoi ? Il ne saura pas le dire. Alors, donc, retenons ça. Je ne comprends pas comment l'être en acte peut être fin de ce qui est en tant qu'être. Puisque, par exemple, dans l'amitié, voilà, très bien, revenez toujours à l'amitié, revenez toujours aux deux premières expériences de la finalité, l'amitié et l'œuvre d'art, puisque là c'est tangible, hein, vous touchez ça, tandis qu'en métaphysique, hein, c'est tangible pour mon intelligence métaphysique, mais j'ai de la peine arriver à la finesse de l'intelligence métaphysique. Ça, il faut du temps. Enfin, on n'y arrive pas tout de suite. Hein. La finesse de l'intelligence, c'est l'intelligence. Dire ceci est. Puisque même des professeurs de jury à la Sorbonne restent en disant qu'est-ce que vous voulez dire par ce jugement d'existence ? Ceci est. Ils ne voient pas. Et ils sont gonflés de science. Et ceci est. Alors que je vois que tous vous voyez, ceci est. À quoi ça m'avance ? Ça avance à voir qu'il y a quelque chose d'autre que vous. Ah ! C'est quand même énorme de voir qu'il y a quelque chose au cours. Mais si le philosophe croit qu'il n'y a rien en dehors de lui, ceci est très dérangeant, parce que tout son système balance. Ceci est. L'autre, il existe. Et l'amitié. Par exemple, dans l'amitié, la fin de ma capacité d'aimer, c'est la personne de l'ami, et non pas moi en acte d'aimer. Dans l'amitié, la fin de ma capacité d'aimer, c'est la personne de l'ami, c'est très juste, et non pas moi en acte d'aimer. Analogiquement, l'être en acte, serait la conséquence de l'être qui atteint sa fin. Entelekeia, l'état de perfection. Entelekeia. En telos ekein. L'ayance dans la fin. Ce repos, entelekeia, c'est un mot inventé par Aristote. Hein. C'est un mot clé. C'est bien de l'annoncer maintenant. J'allais venir après. Comme l'homme vertueux dont la fin, c'est l'ami, le bien fin, entelekeia, non ? Entelekeia, c'est celui qui aime la personne aimée. Je suis l'ami de mon ami. Et c'est mon ami qui est ma fin, c'est pas moi. Donc, l'entelekeia, c'est moi aimant l'ami. Et l'ami est la fin. Energeia, il est fin. Il est le bien. Et moi, je suis, par rapport à mon ami, je suis aimant mon ami. Et mon ami et ma fin, entelekeia, je suis par lui dans ma fin. Mais ma fin, qui commande cet état de perfection, c'est mon amour. Celui qui considère que son amour est plus important que son ami, très vite n'aimera plus. Dès le jour où vous considérez que votre amour pour votre ami est plus que votre ami, votre amitié est morte. Le jour où vous considérez que votre contemplation est plus importante que Dieu, vous n'êtes plus religieux. Vous n'êtes plus dans la vérité. Dieu est plus que votre contemplation, puisque c'est grâce à Dieu que vous contemplez. Donc, l'entelekeia est ce qui me permet de découvrir energeia. Et au fond, ce que Aristote reproche à Platon, c'est que Platon est trop resté dans l'entelekeia. Il n'a pas vu l'energeia, l'acte. Au point de vue de l'amitié, c'est pour ça que c'est très bien de faire appel à l'amitié, mais ça va juste en sens inverse, que vous disiez. Si vous pensez bien l'amitié, parce que là, nous en avons tous expérience, hein. Quand vous aimez, c'est votre ami que vous aimez. C'est lui qui vous attire. C'est lui en qui vous pouvez vous reposer en l'aimant. Et votre ami est plus que l'amour que vous avez pour votre ami. Le jour où vous considérez que l'amour que vous avez pour votre ami est plus grand que votre ami, c'est fini. C'est vous qui êtes ami de vous-même. Votre finalité, c'est votre amour. Donc c'est vous aimant, c'est plus la vie. Je crois que ça, vous pouvez tous le comprendre. S'il y a quelqu'un qui ne le comprend pas, qu'il réfléchisse. Parce que je crois que vous pouvez tous le comprendre. Transposer tout de suite au point de vue religieux, la contemplation et Dieu. Quand vous contemplez Dieu, mais Dieu est plus que votre contemplation. Oui. Et c'est ce que le Père Dehaut disait, distinguons toujours bien le ronron du chat en face du feu et le vol de l'aigle. Il y a deux types d'oraison. Le ronron du chat, il est content d'être là. Je suis content d'aimer. Ah, c'est magnifique d'aimer. C'est extraordinaire d'aimer. J'aime. J'aime. Dieu, oui. Oui, mais Dieu, c'est accidentel. C'est que j'aime, c'est ça qui est important. le chat, il est enfermé en lui-même, il ronronne. Et puis vous venez sur son front, vous touchez ça, il ronronne. Le feu qu'il a chauffé, c'est tout à fait secondaire, c'est accidentel, c'est lui. Le vol de l'aigle, toujours plus haut, attiré toujours plus haut, il se quitte lui-même. Il est fasciné par celui qu'il aime. Alors, entelekeia, l'ayance dans la fin. L'ayance dans la fin, c'est l'amour. J'aime. Ce n'est pas la fin. Energeia, c'est la fin. Oui. Très joli, parce que ceci est en même temps prophétiquement la manière dont je peux voir que la phénoménologie m'enferme sur moi. Dans la phénoménologie, je ne vois que entelekeia, l'ayance à la fin. C'est beau, c'est très beau, l'ayance à la fin, mais c'est terrible. Si je m'arrête là et je me contente de ça, je me coupe de ma source. Allons encore plus loin pour arriver à préciser ça. C'est très important. C'est très important de bien saisir cette induction que donne Aristote, que saint Thomas s'est servi constamment de ça, il n'a pas repris, parce qu'il n'a pas fait de philosophie. Le philosophe est Aristote. La métaphysique, quelle est la différence entre les mots capacité, potentialité, puissance, possibilité, corporalité, capacité, oui, c'est capacité. Bon, la capacité, c'est le pouvoir d'agir. La potentialité, c'est beaucoup plus général, c'est un état d'imperfection. Je peux, je suis dans cet état de potentialité. Et la puissance, ça précise par quoi la potentialité existe. C'est parce qu'il y a de la puissance. Parce que tout n'est pas en acte. La puissance, c'est ce qui n'est pas en acte en moi. Et la possibilité, c'est justement, je réduplique sur puissance par rapport à l'être. Et je dis la possibilité. La possibilité d'être. Donc, vous voyez, la capacité, c'est par rapport à l'opération. Possibilité, c'est par rapport à l'être. Et c'est l'état de puissance que je vois dans les différents aspects. Vous voyez surtout votre capacité, parce que c'est par rapport à l'opération, c'est la première chose que je connais. Puis vous voyez la potentialité au point de vue de l'être, l'être possible. C'est l'être qui n'est pas achevé, qui n'est pas entièrement actué. Il y a en lui des possibilités. Pourriez-vous préciser la différence entre un état d'être et étant et une cause à l'intérieur de l'être lui-même? Un étant. Un étant, état d'être, c'est une manière particulière d'être. état d'être, manière particulière d'être. Les temps, c'est cette réalité prise en elle-même. Et une cause à l'intérieur de l'être lui-même. À l'intérieur de l'être lui-même, une cause. Ce que vous voulez dire, c'est que l'être en acte est fin de lui-même. Donc il est cause par rapport à lui-même. L'être en acte il est séparé de toute potentialité. L'être en acte se suffit à lui-même. Il est l'être en puissance, il n'est pas achevé. Tandis que l'être en acte, dans cet état-là, est, il se suffit à lui-même, il est parfait. Il est plus que parfait, c'est, il est en même temps bon. Vous voyez ? Et ce sera la bonté qu'il comprendra, qu'il nous fera comprendre au point de vue de la finalité. Puisque la fin telos, je la vois surtout et en premier lieu dans l'éthique, hein. C'est sûr. C'est ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. C'est toujours le principe, cela, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Et l'acte possède en lui d'être fin. Puisque c'est cela au-delà de quoi je ne peux pas aller. Vous voyez, je l'exprime négativement. Parce que mon expérience est toujours à l'égard d'une détermination qui à la fois est en acte et en puissance. C'est l'étang. L'étang est en acte et en puissance. Les deux sont liés. Vous voyez, les deux sont liés. L'étang, c'est entelekeia. Ça peut être entelekeia. Ça peut être. Quand vous êtes entelekeia, c'est-à-dire l'ayant dans la fin, vous êtes un étang. Un étang parfait. Qui ne cherche rien d'autre comme étang. Et en lui, il y a puissance et acte. Alors c'est ça qu'on va voir. Donc, pourriez-vous préciser la différence entre un état d'être et un étant, et cause à l'intérieur de l'être lui-même? Donc, état d'être exprime une manière d'être. Étant implique la manière d'être, mais je la regarde comme une réalité qui m'est donnée. Et une cause à l'intérieur de l'être veut montrer que dans l'analyse que je fais, je peux saisir dans une réalité ce qui est sa fin. Ce qui est en acte, ce qui ne demande pas d'achèvement, ce qui, par lui-même, s'impose comme source. À travers les analogies que vous avez présentées, nous avons vu un ordre entre l'état potentiel et l'état achevé. Il semble qu'il y ait une grande distance entre un ordre et une cause finale qui est réelle. Ah oui. Attention, hein. Vous saisissez l'ordre de l'imparfait au parfait. C'est pas l'ordre lui-même, c'est l'ordre de l'imparfait, ça c'est réel. L'ordre abstrait peut être n'importe quoi. Hein. L'ordre, vous le voyez dans les différents. Mais quand vous voyez l'ordre entre l'imparfait et le parfait, vous voyez un ordre réel qui est présent, qui est réel entre cet être imparfait et cet être parfait. Donc, cet ordre peut impliquer une causalité. Quelque chose qui est source et quelque chose qui reçoit. Quelque chose qui attire et quelque chose qui est attiré. Quelque chose qui est indépendant et l'autre dépendant. Donc, il peut contenir une source, il peut contenir une cause, parce que c'est quelque chose de réel. Donc ce n'est pas l'ordre en soi, c'est l'ordre de l'imparfait au parfait, d'un ordre existant. Alors, revenons de toutes les façons, c'est très important, revenons à l'induction que je vous présentais hier. L'induction répond à une recherche. Et une recherche se traduit par une interrogation. Toute induction est une réponse à une interrogation. Qu'est-ce dans l'ordre de l'être? Voyez bien l'interrogation. Il faut arriver à penser l'interrogation. Il faut que ça vous dise quelque chose, parce que ça ne vous dit rien du tout. Vous comprenez, ce n'est pas une interrogation. Une interrogation représente une intelligence en état de désir, en état de recherche. Dès que vous faites une thèse, vous êtes en état de recherche. Votre interrogation permet de saisir dans un ouvrage précédent qui vous est donné ce qui vous intéresse et vous abandonne le reste. C'est ce qu'on fait. On cherche ce qui peut intéresser. Donc, je m'interroge, quelle est la finalité de l'être? Toujours, l'interrogation. C'est rechercher le premier dans l'ordre de la fin. Le premier dans l'ordre de la fin, c'est le principe final. Et parce qu'il est principe, parce qu'il est premier, il n'y a rien après. C'est ce qui est fin par soi. Alors je peux dire, dans l'ordre moral, dans l'ordre des activités humaines, c'est le bien qui me finalise, le bien, ce que tout désire. Et ça, c'est tout simplement une description du bien. Je ne peux pas définir ce que c'est que le bien. Et personne ne peut définir ce que c'est que le bien. Mais on peut dire que le bien, c'est ce que je désire. Ce petit gâteau, il est très bon. Hein, vous dites qu'il est très bon. Pourquoi? Parce qu'il est agréable au goût. Mangez-le, vous verrez, il est très bon. Prenez cette expérience courante. Vous ne dites pas un gâteau qu'il est bon s'il n'est pas désirable. C'est parce que je le désire qu'il est bon. Ce cheval, il est bon. Parce qu'il est agréable à monter. Il ne va pas au fichu dehors. Il est bon. Bon, c'est ce c'est ce que je désire. Dans la bonté, il y a deux choses différentes. Il y a la bonté de celui du bon pour lui-même et du bon pour un autre. Ça aussi, ça se comprend très bien. Le bon pour lui-même, c'est la fin. Le bon pour un autre, c'est le moyen. Les moyens, c'est je ne m'arrête pas. Ça, c'est présupposé connu. C'est présupposé connu. Ça fait partie de l'éthique. Hein. Ça fait partie de l'analyse même de l'acte humain. Je vois tout de suite dans l'acte humain la différence, ce qui est bon pour moi, parce que ça me permet d'atteindre quelque chose de meilleur. Et ce qui est bon pour lui-même, sans chercher autre chose. Je dirais que l'ami est bon pour lui-même. Mais l'ami peut avoir des choses qui sont bonnes, ils sont très agréables pour moi. Il a de très beaux yeux. Je n'aime pas la beauté des yeux pour elle-même, c'est l'ami que j'aime pour lui-même. Mais ça ajoute à la bonté de l'ami. Il a des gestes très très doux. J'aime ses gestes très doux. Vous voyez, la distinction entre le bien en soi, pour soi, et le bien pour un autre. C'est en éthique qu'on fait cette distinction. Bon. Je cherche dans l'être ce qui est bon pour soi. Ce qui dans l'être, parce que le bon en soi, c'est quelque chose qui existe. La bonté implique l'existence. Autrement, vous auriez l'idée de bonté. Mais l'idée de bonté, elle ne m'attire pas du tout. Le bon idéal, il n'existe pas. Non, la bonté demande d'exister. Elle existe. Et le bon en soi, c'est quelque chose qui existe. Donc, c'est l'être qui est bon. C'est l'être qui, en soi, attire et est aimé pour soi. Je cherche donc, dans ma question, ce qui, dans l'être, est attirant. Ce qui, dans l'être, me finalise, m'arrête, et je ne peux pas aller plus loin. Donc tout ça est impliqué dans ma recherche, hein, dans ma question. Une démarche inductive n'a de valeur que par l'interrogation. C'est l'interrogation qui m'anime. C'est exactement quelqu'un qui fait une thèse et qui cherche. Il est possédé par une interrogation. On va rechercher qu'est-ce qui a été dit là-dessus. On va rechercher, par exemple, en théologie, on fait une recherche, quel est le premier père de l'Église qui a parlé de ça, qui a dit que le Père et le Fils étaient un dans l'inspiration de l'Esprit-Saint. Quel est le premier Père de l'Église ? Je cherche tout le temps l'interrogation. Parce que le premier qui a dit ça a dit quelque chose de nouveau que les autres n'avaient pas dit. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est un peu matériel puisque c'est celui qui a dit ça en premier lieu. Mais ça m'intéresse. L'âme de la recherche, l'âme de l'induction, c'est justement cette interrogation que je me pose. Et cette interrogation me donne la force de chercher. L'arc est tendu. Mon intelligence est tendue par l'interrogation. Et là, si on n'interroge pas, l'arc n'est pas tendu. Quand l'arc n'est pas tendu, la flèche dégringole par terre. Je dis, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Ah, vous n'avez pas d'interrogation. Mais là, ça, je ne peux pas vous le donner. Hein. Je ne peux pas tendre votre intelligence. Je peux vous dire, voilà, l'interrogation, c'est cela. Il faut essayer de comprendre l'importance dans notre vie morale de la finalité. Vous sentez que quand il y a un grand désir en vous, vous devenez très intelligent. Quand il n'y a pas de désir en vous, vous êtes paresseux. C'est très net. Hein. Quelqu'un qui a très grand désir d'aimer Jésus fera n'importe quoi. Celui qui n'a aucun désir, bon, fait ça par devoir. Il n'est pas inventif. Il fait ça par devoir. Il faut tout lui dicter. Il faut lui dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Bon, pour un gosse, c'est très bien. Mais quand quelqu'un grandit, c'est très embêtant. Aucune initiative. Ah, c'est merveilleux. Il est très obéissant, mais pas inventif du tout. Il faut tout lui dire. Faut tout lui... Alors, il faut toujours lui présenter des plats nouveaux pour qu'il ait de l'appétit. Vous voyez ? Le désir. Alors, il y a un désir de la recherche de la vérité. Si, dans votre vie morale, vous voyez l'importance de la finalité, et ça, vous le voyez vite. Voyez vite l'importance de la finalité. Vous voyez que dans la finalité, vous êtes très éveillé. Tout vous intéresse pour avoir la fin. Si c'est un moyen qui me permet de mieux aimer Dieu, oh, je le prends. Vous vous posez la question pour comprendre bien ce qu'est la finalité. Il faut remonter jusqu'à l'être. Tant que je n'ai pas vu l'être de la finalité, ce qu'est la finalité au point de vue de l'être, je ne connaîtrai pas parfaitement ce qu'est la finalité. Vous voyez, il y a tout ça présupposé et antérieur à l'induction. Un état dans lequel on se trouve. On a soif de connaître la finalité au plan de l'être. Donc vous voyez, dans l'interrogation, il y a la finalité, puisqu'il y a un cause finale. J'ai découvert antérieurement qu'il y a quatre causes. Et ça, j'ai découvert assez vite, puisque l'analyse simplement de votre activité artistique, de votre activité du travail, implique ces quatre causes. Depuis Aristote, on a vu ces quatre causes, on n'a pas dit plus. Il y en a une cinquième qui est la canne qui vient s'ajouter, qui est entre la cause formelle et la cause finale. Alors il y a la cause formelle artistique. Et j'ai les quatre causes. C'est la première chose à voir, c'est que la cause, c'est la source. Quand j'étudie quelque chose, je veux aller jusqu'au bout. Je veux découvrir la source. Et je vois qu'il y a cinq manières de la chercher. La cause matérielle, la cause formelle, cause efficiente et finale. Et je sais que saint Thomas et Aristote disent que la cause finale est la cause des causes. Donc c'est très intéressant. C'est une super cause. Puisque je n'agis que quand il y a une finalité, quand je sais ce que je dois faire. Donc c'est une super cause. Je peux être très capable de réaliser quelque chose, et l'artiste en est là quelquefois, il est très capable de réaliser, mais il ne réalise rien. Et son épouse lui dit, mais tu ferais bien de faire ça, tu en es très capable de faire ça. Non. J'attends. J'attends. J'attends que je sois un état de grâce. J'attends. Qu'est-ce qu'il attend ? Il attend la fin, d'être finalisé, de vouloir par la fin, je dois faire ça, je sens que je dois faire ça. C'est quelque chose de très curieux, hein, la finalité. C'est cause des causes, une super cause. C'est pour ça qu'elle se perçoit vite, hein, au point de vue savoir exactement ce qu'elle est. Et on cherche quelle est la finalité dans l'être, au niveau de l'être. J'ai vu qu'il n'y a pas de premier dans l'ordre de l'être au point de vue matériel. Il n'y a pas de premier dans l'ordre de l'être au niveau efficacité. Il n'y a de premier que formel. La détermination. Mais la détermination ne suffit pas. Et je le vois très bien au point de vue moral, au point de vue éthique. Quelqu'un qui dit je suis parfait. Sa mère dira attends, d'être un homme va nous dire que tu es parfait. Alors, demain, je serai un homme. Demain, je serai grand. Et le désir de grandir. Et Jésus, à la fin de sa vie, où tout a été parfait, où tout a été parfaitement déterminé, Jésus dit, j'ai soif. Si Jésus voulait, il a peut-être voulu, hein, si Jésus voulait nous donner le sens de la finalité, il ne ferait pas mieux. Jésus, l'homme parfait, qui a accompli mais parfaitement tout ce qu'il avait fait, dit « j'ai soif », comme si tout ce qu'il a fait était la possibilité pour lui d'aller plus loin. Ça, c'est renversant. Et comme on est chrétien, ça signifie quelque chose pour nous. Et quand c'est très difficile au point de vue philosophique, on fait appel à notre foi. On sait très bien que c'est un appel momentané. Je dois arriver par l'intelligence elle-même à me poser le problème. Mais j'ai besoin de ça pour m'éveiller un peu, parce que je ne vois pas. Alors, quand vous avez le « j'ai soif du Christ », vous êtes bien obligé de dire que la causalité finale, c'est ce qu'il y a d'ultime. Autrement, le « j'ai soif du Christ » ne signifie rien du tout. Vous n'expliquez pas le « j'ai soif du Christ » en disant « ah, Jésus fait allusion à un psaume ». Mais non, quoi, le psaume est pour le Christ. C'est pas le Christ, c'est pour les psaumes, quand même. Donc ça n'explique rien du tout. C'est la personne du Christ qui m'intéresse. Et dit j'ai soif. Donc il y a un abîme. L'abîme appelle l'abîme. C'est ça, le cri de la finalité. C'est l'abîme appelle l'abîme. Arriver à saisir, au point de vue métaphysique, cette soif de l'être. Cette finalité de l'être. Alors je regarde tout ce que j'ai comme expérience. Et je m'aperçois qu'en effet, c'est inscrit partout. Cet ordre entre l'imparfait et le parfait. C'est inscrit dans, depuis les réalités très simples, les éléments matière et forme. Je n'avais pas fait par deal. La matière, elle est tombée quand j'ai cherché la substance. Tandis que là, la matière m'intéresse. Elle a soif de la forme. Et la matière, la causalité matérielle, a grise soif. Je cherche partout où il y a cette soif, ce désir. Et ce désir, c'est l'ordre de l'imparfait vers le parfait. Le désir, c'est pas autre chose que ça. Hein. Si vous voulez comprendre le désir, c'est que je suis imparfait et j'ai soif d'être parfait. Et ça existe en tout, partout, donc ça existe dans l'être. Et qu'est-ce que c'est que dans l'être ? Ce désir de la perfection, du dépassement de soi. Il faut être ce que tu dois être. Ça, c'est le désir. Hein ? Celui qui n'a pas de désir, il est. C'est tout. Il est. C'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu dois être ? Du sang moral et le juger dans l'ordre de l'être. Et dans l'ordre de l'être, je vois alors qu'il y a l'être possible en puissance, l'être en acte. L'être en acte attire. Il attire ce qui est en puissance. L'être en acte, il est bon. Est bon d'une façon absolue, il attire. Vous voyez, dès que je parle de l'être en acte comme fin, je me rallie à toute la morale et à toute l'éthique. Puisque c'est là où j'ai l'expérience parfaite de la finalité. Et je la vois dans l'être. Et parce que je la vois dans l'être, je la vois d'une façon ultime. Comme ceux qui est capable de m'attirer. Et je peux, à ce moment-là, me dire, c'est curieux, Aristote a employé deux mots, entelekeia et energeia. Il a employé deux mots. Il a inventé un mot qui, avant lui, chez Platon, n'existait pas. Entelekeia. Comme le mot quiddité. Il a inventé deux mots. Donc, il a inventé ça. Pourquoi ? Pour que je puisse distinguer celui qui aime et la bonté qui l'attire. Pour montrer que la fin, l'acte, je peux saisir l'acte dans l'imparfait, je peux saisir l'acte en lui-même, je saisis l'acte dans celui qui est imparfait, et entelekeia, et je saisis l'acte en lui-même, qui attire energeia. Et alors, je vois Aristote qui montre que l'acte se saisit en pros. C'est très joli, ces deux mots. En, l'acte est dans l'imparfait qui l'actue. L'acte est en lui-même, il attire pros. Vers lui. Et par ces deux mots, haine et proche, tout de suite, Aristote précise, découvre qu'il y a quelque chose dans l'acte qui doit être saisi pour lui-même. J'ai d'abord saisi l'acte dans une relation, la relation du désir. Mais je saisis l'acte après en lui-même, parce que c'est lui qui attire. Il est indépendant de l'imperfection, de ce qui est en puissance. Alors que celui qui est en puissance est tout entier ordonné vers l'acte. L'acte, il est en lui-même. Energeia est en lui-même.